France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Vous faites peut-être le dry January, le mois de janvier sans boire d'alcool. L'alcool, un enjeu culturel et de santé publique dans un pays qui célèbre le vin comme vecteur de joie et de convivialité. Une consommation régulière d'alcool qui peut rendre malade inéluctablement et tuer environ 50 000 morts chaque année liées à l'alcool. Ces décès liés à l'alcool s'opposent aux représentations positives sur l'alcool, notamment dans le cinéma et les séries télé. Arrêter de boire, un choix pas toujours socialement bien accueilli, avec un puissant lobbying du secteur conjugué à de forts soutiens politiques. Alors qu'est-ce qui nous empêche vraiment d'arrêter de boire de l'alcool? Comment arrêter quand on est constamment incité à en consommer? Comment ne pas subir le regard des autres quand on ne boit pas lors d'une fête, d'une soirée entre amis, dans un bar ou au restaurant? Et vous, parvenez-vous à arrêter de boire de l'alcool sans vous soucier du regard d'une société qui peut trouver barbant, voire chiant, celles et ceux qui s'abstiennent de boire? Standard ouvert au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Il y avait ce type qui se foutait bien de ma gueule, il était là, qu'est-ce que t'es cliché toi, dès qu'il y a une nouvelle tendance, faut que tu tombes dans le panneau. Dry janvier, c'est bien un truc de connasse de parisienne ça. Le mec me balance ça avec toute sa haine et sa coupe rose. Parce que disons-le, aucun soin n'est accordé aux gens qui boivent pas d'alcool, c'est quand même scandaleux. Chez les gens, si tu bois pas, t'as limite même pas droit à un vrai verre. Hier, on est allé bouffer la galette des rois chez des potes, ils m'ont servi du jus de pomme dans le verre en plastique Pokémon de leur enfant. Franchement, c'est intolérable, j'ai arrêté de boire, j'ai pas 4 ans et demi. Tu vas quand même pas trinquer à l'eau. Sérieusement, il y a déjà quelqu'un qui a dit ah bah ouais, t'as raison, on serait vraiment con de trinquer à l'eau. Allez, serre-moi un ginto, Francis. C'est quand même étonnant que ça emmerde tout le monde, les gens qui boivent pas. Et en même temps, je comprends. Parce que moi-même, à chaque fois que je passe une soirée avec des gens qui me disent qu'ils boivent pas, je me dis, oh là là, pas drôle, c'est bon, il va falloir bien se tenir. Bah, parce qu'il n'y a rien de pire qu'être bourré dans les yeux d'un sobre. T'as vraiment l'impression d'être une poubelle, quoi.
La comédienne et humoriste Nora Hamzaoui en janvier 2024 sur France Inter. Bonjour professeur Mickaël Nazila.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université de Picardie Jules Verne, directeur du groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances de l'INSERM, présidente de la Société française d'alcoolologie. C'est vous qui avez importé le dry January en France. Vous publiez chez Solar, J'arrête de boire sans devenir chiant, le guide pour changer sa relation à l'alcool et préserver sa santé. Expliquez-nous ce titre tout de même, Mickaël Nazila.
Oui, bah, ce titre, il vient d'une interview de Léa Salamé avec Artus, et qui lui a dit
dans l'émission Quelle Époque.
Voilà, Quelle Époque, et qui lui a dit qu'il devait être chiant depuis qu'il s'était arrêté de boire, et en fait, il lui a simplement qu'il était malade. Donc j'ai rebondi un peu sur cette réponse et cette incompréhension. Hein, parce que l'alcool, c'est beaucoup la fête, mais c'est aussi pas mal de pathologies et de mortalité liées à sa consommation chronique.
Bonjour, professeur Amine Benyamina.
Bonjour.
Chef du service psychiatrie et addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Et vous êtes le président de la société...
La Fédération française d'addictologie.
Addictologie.
Qui compte parmi ses membres? La Société française d'alcoolologie.
Bonjour Laurent Beg-Chankland.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur en psychologie sociale à l'université Grenoble-Alpes, directeur de la Maison des sciences de l'homme Alpes, et vous êtes en duplex d'ici Isère. Professeur Mickaël Nazila, vous avez donc importé le dry January en France. J'ai l'impression que ça prend un peu mieux cette année par rapport aux années précédentes.
Alors juste une petite rectification, je l'ai emporté, on l'a emporté vraiment à plusieurs. Hein. C'est vraiment toutes les associations, les FEDE, ouais. Là qu'on représente ce matin notamment, qui ont pris en main l'organisation de cette campagne qui a été abandonnée, délaissée par le gouvernement. Donc oui, ça prend très très bien parce que justement il y a une résistance à l'installation de cette campagne. Et c'est de plus en plus incompris par le grand public. Et ça marche très très fort, on est à peu près une estimation de 5 millions de participants, donc ça marche de plus en plus fort.
Et pourtant, pendant longtemps, cette occasion de limiter sa consommation d'alcool a fait ricaner. Arrêter de boire n'est pas toujours socialement bien accepté. Et puis le dry January, c'est un événement qui a pu être décrédibilisé par certains lobbies.
Oui, parce qu'on l'a tout de suite associé au sans-alcool, mais en fait, c'est les créateurs vraiment du mois sans-alcool ont dit que l'idée, c'était vraiment pas d'interdire la consommation, c'est le moment de faire le point sur sa consommation, de réaliser qu'on consomme peut-être un peu trop et que ça a un impact sur sa santé. Et oui, ça fait réagir les lobbies, parce que Oui, c'est leur job un petit peu d'essayer de nous faire pleurer en disant qu'on fait chuter la filière, mais c'est vraiment pas des campagnes comme ça qui font diminuer suffisamment la consommation d'alcool pour avoir un impact économique. C'est une dynamique mondiale même, et il va falloir s'y faire. Il y a même de plus en plus de jeunes qui ne consomment pas d'alcool.
Professeur Amine Benyamina.
Absolument. Ce qui est utile et important de dire, allez-vous parler du dry généré, qui est une création britannique de 2013. En France, on a adopté le dry généré. On parle du défi. Et donc, c'est pas un mois sec. C'est un mois dans lequel, d'ailleurs, il y a une bonne ambiance dans laquelle tous les Français, surtout ceux qui n'ont pas de difficulté avec l'alcool, mais qui boivent même de temps en temps, peuvent s'engager et de manière conviviale arrêter de boire pendant un mois et essayer de compter les bénéfices liés à l'arrêt de l'alcool. Et ce qui est utile et qui est important, ce que vient de dire Mickaël, c'est que ça prend partout, malgré le désaveu finalement des pouvoirs publics à soutenir cette démarche. Les Français la plébiscitent et la preuve en est chez vous. Ça devient, comme vous dites dans le jargon de la presse, un marronnier, mais qui a vraiment un soubassement sociologique et social extrêmement important.
Arrêtez d'emmerder les Français avec ça, avait dit le président de la République Emmanuel Macron en 2018 au salon de l'agriculture, alors que la consommation d'alcool est l'une des premières causes d'hospitalisation en France et une cause de mortalité importante. Tente environ 49 000 décès par an dans notre pays, Mickaël Nassila.
Oui, c'est ça, on ne se rend pas bien compte de l'impact que l'alcool peut avoir sur le buveur, mais aussi l'entourage et la société. Donc, c'est plus de 207 maladies, plus de 200, en les comptant précisément, j'arrive à 207. C'est une des toutes premières causes d'hospitalisation, et donc ça coûte très très cher, 102 milliards à la société. Là, on ne parle que d'économie. L'alcool nous coûte beaucoup plus que ce que ça peut rapporter en recettes. Donc oui, il va falloir comprendre que l'enjeu de santé publique est énorme et il va falloir promouvoir ce type de campagne parce que en France, il y a des petites campagnes comme ça, alcool, on a des fils rouges, mais on manque d'une grosse campagne comme ça où pendant un mois, en plus, on parle d'alcool, on parle des méfaits de l'alcool, voilà, et on voit que ça marche, les gens changent de comportement, comprennent. Et c'est une campagne efficace en plus. Là, en France, on va avoir des études scientifiques qui vont sortir là-dessus et on aura de quoi vraiment revenir souvent vous voir pour vous expliquer ce que ça peut donner dans la société.
Et c'est vrai que les choses évoluent positivement à propos du dry January. Un écrivain comme Frédéric Becbédé révélait hier dans la Tribune dimanche qu'il faisait le dry January toute l'année.
Mmh. Oui, effectivement. Les gens qui comprennent, en fait, qui ont testé, voient l'intérêt, voient les méfaits, et il y en a beaucoup qui le continuent beaucoup plus longtemps. C'est l'intérêt. On voit des effets à l'année, puis comme ça recommence tous les ans, en fait, eh bien, des personnes comprennent que c'est dans leur intérêt de réduire beaucoup la consommation d'alcool, voire l'arrêter.
Laurent Beg-Chancland.
Oui, alors je pense qu'un point très important de cette démarche, c'est d'abord la prise de conscience de ce qu'on consomme, c'est-à-dire finalement, avant même d'arrêter de boire, compter ce qu'on boit. Et je crois que c'est une première étape pour se rendre compte que dans certains cas, en tout cas, les consommations dépassent très largement les seuils. Je pense que Mickaël va les rappeler tout à l'heure, les seuils limites pour la santé. Et par ailleurs, dans les effets de l'alcool sur la santé, il y a également des effets sur la santé sociale, puisqu'on a des travaux qui ont été réalisés récemment en France sur notamment les violences sexuelles chez les étudiants et qui montrent que dans un cas sur deux à peu près, sur une enquête de 67 000 étudiants, l'alcool est présent dans les violences sexuelles. Donc je pense que c'est un facteur de risque supplémentaire qui évidemment doit être pris en compte dans ces enjeux.
Professeur Nassila, parlons peut-être du vocabulaire qui a évolué. Les professionnels de santé et les spécialistes parlent aujourd'hui de troubles de l'usage d'alcool plutôt que d'alcoolisme.
Effectivement, très stigmatisant, on évite les mots alcoolique, alcoolisme maintenant, tout comme on a bougé de toxicomanie et même dépendance. On arrive à addiction et là le terme vraiment... on va dire médical, c'est trouble de l'usage d'une substance et trouble de l'usage d'alcool. C'est un spectre et ça commence avec des problèmes, simplement à avoir une consommation d'alcool qui vous pose des problèmes dans votre vie tous les jours. On commence déjà à avoir une dépendance légère et puis ensuite, il y a des problèmes de santé et de comportement qui arrivent.
Comment savoir, professeur Benyamina, si on est dépendant à l'alcool ?
Ben c'est assez simple. D'abord, il y a ce qu'on sait, c'est-à-dire on peut pas s'abstenir de consommer. Lorsqu'on s'arrête, on a des effets. Et puis, il y a des dommages qui s'opèrent à la fois sur sa personne, psychologique et somatique, sur son environnement, et puis sur son incapacité à être présent dans sa famille, dans sa vie, dans sa profession. Et puis, ensuite, s'installent les troubles somatiques et psychologiques. On a ce qu'on appelle des comorbidités, des problèmes éthiques liés à l'anxiété, à la dépression, des éléments très souvent associés à la consommation d'alcool, mais aussi nuit, évidemment, on a des problèmes liés à des problèmes somatiques, des problèmes de foie, de cerveau, voilà, de cœur.
Pourquoi est-il si difficile de qualifier l'alcool de drogue ?
Pour les addictologues, c'est pas un problème parce que la définition de la drogue, ce n'est pas un produit.
Je parle pas pour les spécialistes. Hein. Je parle des pouvoirs publics ou de la société en général.
Parce que la drogue, c'est un produit pour lequel on voit parfaitement de quoi il s'agit et pour lequel il faut mettre en place une stratégie de prévention, de lutte et de traitement. Dans la mesure où, ça a été dit depuis le départ de l'émission, on a quand même un lobby extrêmement puissant qui d'ailleurs a même essayé d'extraire l'alcool du champ total de la santé pour le mettre dans l'agriculture. Donc on a des politiques hypocrites qui, très clairement, donnent un statut particulier à l'alcool et particulièrement au vin. On l'a entendu, évidemment, pas plus tard que jeudi, puisque j'étais chez vous. Dans la matinale, on a une phraséologie, on a une thématique qui est développé par le lobby de l'alcool, qui fait qu'il y a une espèce de particularité liée au vin en France. Et on parlait tout à l'heure des seuils, on part du principe qu'il faut consommer, alors que non, on est sur un seuil, alors qu'on sait pertinemment que ces seuils, qui d'ailleurs ont été édictés par l'INSERM, on a participé, ce sont des seuils à partir desquels les problèmes se déclenchent de manière exponentielle.
Professeur Nassila.
Alors oui, sur la drogue, c'est très important parce que là, on a une enquête qui vient de sortir. 84% des Français assimilent maintenant l'alcool à une drogue. Donc c'est bon, ça passe et c'est tout simple. Hein, une molécule qui atteint le cerveau, qui change le comportement et qui induit une addiction, c'est une drogue. Et l'alcool, elle remplit tout ça. Voire même, on parle plus de drogue douce, drogue dure, mais l'alcool, franchement, quand on a une addiction à l'alcool, ça peut être très très sévère.
Et pourtant, on a du mal à franchir le seuil avec le vin, dans un pays qui est un pays vinicole de premier ordre.
Oui, c'est une catastrophe, puisqu'on pense encore que le vin, c'est bénéfique pour le cœur, alors que pas du tout. Toutes les études maintenant ont invalidé tout ça. Voire pire, il y a le baromètre cancer 2021 qui dit qu'un quart des Français croient qu'un petit peu de vin rouge, ça protège du cancer. Donc là, on a un vrai problème encore de représentation sur des bienfaits de l'alcool.
Un point, Michael a cité un sondage extrêmement important, Harris Interactive, porté par Addicted, qui parle de la première préoccupation des Français, c'est l'alcool. C'est extrêmement important. Et un autre point sur lequel j'attire l'attention des Français, on a créé un terme qui est un terme de marketing et de lobby qu'on appelle l'énotourisme. C'est-à-dire, en gros, on veut de manière volontaire, extraire le vin pour en faire quelque chose de différent alors qu'il est porteur de maladies et porteur de drames.
Bonjour docteur Adrien Chaboch.
Bonjour Ali.
Bonne année à vous tout d'abord.
Bonne année.
Quelle est votre ordonnance dans votre chronique Quoi neuf docteur ?
Alors aujourd'hui, suis-je normal si je ne fais pas les choses comme les autres ? Et finalement, c'est quoi la normalité en médecine ?
Grand bien vous fasse.
Je vous sers à boire, monsieur.
Qu'est-ce que tu bois ?
Aucune idée, qu'est-ce que je bois ?
Trois mesures de Gin Gordon, une de vodka, une demi de
Quinalilé,
qui n'est pas du vermouth. Bien agité au shaker pour être servi glacé avec un grand zeste de citron coupé très fin. C'est le sixième.
Impressionnant. Exquis, je te le recommande.
Sur France Inter.
Et ce matin, qu'est-ce qui nous empêche de boire de l'alcool ? Écoutons le chroniqueur Maxime Muscat, c'était une vidéo brute d'il y a quelques jours.
Là, j'en suis à 3 ans, 10 mois, 18 jours, 16 heures, 6 minutes, 12 secondes, 13 secondes. Je ne bois plus. Genre, c'est fini. L'alcool, c'est fini. J'ai eu 2-3 remarques de potes qui me disaient, donc dans des endroits où ça y allait juste pour y aller, quoi, en mode shot, shot, shot et tout. Et j'ai eu une remarque d'un pote qui me dit, ouais, bon, t'es marrant là, mais vivement la fin de ton année là, parce que tu fais chier là, à pas pouvoir. Et donc, il m'a dit ça et je comprends sa réaction. Je lui ai répondu. Je crois qu'en fait là je vais mieux et que je suis pas sûr de reprendre en fait ensuite après ces 1 an. Et du coup faut pas me dire ça parce que là tu m'aides pas en me disant ça. Et il m'a plus jamais emmerdé depuis. Si vous êtes avec des gens qui vous tirent l'air vers le bas alors que vous essayez de remonter, eh ben il faut couper le fil et il n'y a pas le choix. Et genre faut leur dire je suis désolé, enfin vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas moi c'est ce que j'ai fait et je regrette pas une seconde d'avoir fait ça. Parce que il faut être entouré de gens qui vous tirent vers le haut quoi.
Maxime Muscat, dans une vidéo brute de ce mois de janvier. Alors, pouvez-vous nous rappeler, professeur Michael Nassila, je rappelle que vous publiez « J'arrête de boire sans devenir chiant », professeur Amine Benyamina, pouvez-vous nous rappeler l'impact de la consommation d'alcool sur l'organisme, sur la santé physique et psychique ? Évidemment, nous ne sommes pas tous égaux devant l'alcool. Les effets des premiers verres d'alcool sont très variables selon les individus. Quels sont les effets à à moyen et long terme d'une consommation excessive d'alcool?
Alors, si on prend le problème en ces temps de défi de janvier, si on prend le problème à l'envers, quand on arrête de boire, en 4 semaines seulement, vous savez ce qui se passe? Il y a le cholestérol qui diminue, il y a la tension artérielle qui diminue, on perd du poids, il y a des marqueurs de cancer qui diminuent, donc c'est vraiment des
signes...
Au bout de 4 semaines, études scientifiques à l'appui. Donc on voit bien que voilà, la consommation d'alcool a un impact fort, et les risques pour sa santé, c'est des pathologies, notamment cardiovasculaires, très fort, des pathologies digestives, aussi maladie du foie. Vous savez que maintenant, quand on décède d'une maladie du foie en France, pour plus de la moitié, c'est à cause de l'alcool. Et puis, bien entendu, plein de cancers, et toutes ces pathologies peuvent apparaître à des niveaux de consommation assez faibles. On parle de 2-3 verres par jour. C'est pour ça que les repères de consommation, attention, sont des repères. Et quand vous êtes autour de ces repères, vous avez une consommation à moindre risque.
Quels sont les repères de consommation d'alcool?
Alors, on les répète une fois pour tous. Pour toutes, c'est pas plus de 2 verres par jour. Donc, ça fait pas plus de 10 verres par semaine, et donc mathématiquement au moins 2 jours sans consommer. Et ça, c'est important parce qu'on sait, c'est vraiment des seuils maintenant vraiment tip-top. Ils sont clairs, et on sait qu'au-delà de ces niveaux, vous allez déclencher, comme l'a dit le professeur Beniamina tout à l'heure, des risques de pathologie de manière exponentielle. La mortalité augmente à partir de 10 verres par semaine.
Et quelles sont les pathologies psychiatriques associées à la consommation d'alcool à moyen et long terme? On s'expose à quoi, professeur Beniamina?
Alors, il n'y a pas de lien de causalité direct. En revanche, on a ce qu'on appelle des comorbidités. Le fait que deux pathologies coexistent, et on voit avec l'alcool qu'il y a 3 troubles qui sont très fréquents. Les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, c'est-à-dire les troubles à la dépression, les troubles bipolaire, quoi. On voit que ce sont des liens extrêmement importants, donc on a affaire plutôt à ça. Mais il y a d'autres pathologies qui peuvent coexister. Je voulais juste rajouter 2 points qui me semblent utiles et importants à rappeler sur les maladies qui peuvent être générées par l'alcool dont on ne pense pas, et qui constituent l'inégalité que vous avez citée, Ali, entre hommes et femmes. Les femmes sont moins bien dotées que les hommes pour se défendre face à l'alcool, avec un développement de maladies somatiques et psychiatriques plus rapidement pour la même quantité consommée. Je vais prendre un exemple. On l'oublie, mais il y a une maladie gravissime qui est le cancer du sein, qui est très élevé chez les femmes consommatrices d'alcool. Et deuxième élément, les femmes sont porteuses de la vie, puisque évidemment elles enfantent, et on oublie de rappeler, et on s'est battu, la Fédération Française d'Addictologie s'est battue pour augmenter l'alerte sur l'emballage de l'alcool, que toute prise d'alcool chez une femme en âge de procréer peut entraîner ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale, qui est la première cause de malformations évitables. Et on n'a pas suffisamment d'informations là-dessus, parce que certaines femmes, quel que soit son niveau, bien renseigné, vous dit même pas un verre. Et non, même pas un verre, parce que les études montrent que même avec un verre, on peut mettre au monde un enfant qui est atteint par ce syndrome.
Professeur Michael Nassila.
Ah, j'ajouterais aussi une dernière donnée de la science qui fait assez peur, mais il faut prévenir la population. Il n'y a pas que pendant la grossesse. Il paraît que des études semblent indiquer que même quand le papa boit en préconceptionnel, ça laisse des traces sur les gènes, sur les gamètes, les spermatozoïdes, et ça, c'est transmis à la génération d'après. Donc voilà, ça fait réfléchir sur l'impact sur le long terme.
Et vous rappelez, Michael Nassila, dans votre livre, que Platon évoquait déjà les risques liés à l'alcool dans La République et les Lois, et Platon soulignait déjà les risques liés à cette consommation sur la santé. Il invitait à la tempérance et à la mesure, déjà.
Tout à fait.
Il y a 2500
ans. Il y avait déjà des repères, et il disait notamment chez les jeunes, faut pas donner de vin à un jeune de moins de 18 ans. En plus, il citait 18 ans, en disant qu'il faut pas ajouter de feu sur le feu, parce que quand on est jeune, on est vulnérable, on est impulsif, etc. Et l'alcool vient augmenter tout ça. Enfin, peut-être que Laurent dira 2 mots, mais ça modifie le comportement et ça a des effets cognitifs très forts.
Laurent Begg-Shankland.
Oui, voilà,
professeur en psychologie sociale.
C'est ça. Sur la question du comportement, je l'ai évoqué. Donc, beaucoup d'études ont été menées sur les effets de l'alcool sur le comportement agressif, la désinhibition. On a bien sûr des travaux assez nombreux. Par exemple, cette étude qui a été publiée réalisée auprès de 600 000 personnes qui, justement, établissaient un lien linéaire, c'est-à-dire les consommations qui augmentent les risques de violence. Des recherches qui ont été faites également au laboratoire, qui consistent à administrer des doses d'alcool différentes et comparer l'effet que ça a sur l'interprétation du comportement d'autrui ou bien les violences verbales ou physiques. Et dans tous les cas, effectivement, il y a une bonne convergence des résultats qui montrent bien que l'alcool produit des effets sociaux, parfois évidemment des effets je dirais, qui sont liés au rire, à l'hilarité, mais aussi des comportements indésirables comme les violences.
Évidemment, les violences intrafamiliales, les agressions sexuelles, et puis les accidents routiers, Laurent Beck de Shankland. Les crimes routiers.
Bien sûr, ça, les données sont assez claires sur le sujet. On a beaucoup de dommages qui sont associés aux consommations. Et malgré cela, finalement, il y a une minimisation du risque de consommation. Même si, et chez les étudiants, ça a été évoqué tout à l'heure, l'alcool tend à devenir peut-être un peu moins tendance que dans le passé. Oui. En tout cas, quand je parle avec mes étudiants, par exemple, en amphi, je constate que finalement, il y a une forme de ringardisation progressive de l'alcool par rapport justement au passé.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui nous empêche d'arrêter de boire de l'alcool, professeur Nassila. Le French paradoxe. Vous revenez sur les dégâts du French paradoxe. Le paradoxe français, c'est la croyance selon laquelle la consommation de vin pourrait avoir des effets bénéfiques sur la maladie des artères coronaires du cœur, la coronoropathie. Ce French paradoxe qui a pu empêcher certains consommateurs d'arrêter de boire de l'alcool parce qu'ils croyaient de bonne foi dans les bénéfices liés à ce French paradoxe. Expliquez-nous plus précisément d'où vient ce paradoxe français. Je crois que ça vient d'un article publié en 1981 par trois scientifiques français.
Oui, originaire du Bordelais. Oui, alors faut juste rappeler le contexte. C'est une étude qui ne montre en rien les bienfaits du vin. C'est une étude qui dit que il y a moins de mortalité due aux maladies coronariennes, donc les vaisseaux du cœur, et pourtant on mange beaucoup de graisses saturées. Donc venait un paradoxe. Tiens, c'est bizarre. On a moins de mortalité alors qu'on mange beaucoup de produits riches en graisses saturées. Et en fait, ils ont eu l'idée de dire que peut-être ça serait à cause du vin et notamment du vin rouge. Et donc c'est né de là et ça a fait une traînée de poudre.
En fait, cette étude épidémiologique, observationnelle, va être exploitée par le lobby viticole.
Bien sûr, alors qu'il n'y a eu aucune preuve scientifique de lien de causalité, voilà, et même l'inverse, puisque les années, les décennies qui ont suivi, n'ont cessé de... Alors, plein d'études aussi, qui sont aussi promues hein, par les alcooliers, il y a des co-auteurs, il faut regarder les articles scientifiques avec attention, mais sinon, beaucoup d'études qui ont finalement invalidé complètement cette hypothèse.
En 1986, la lettre de l'Office international de la vigne et du vin va utiliser le terme French paradox. Une publication de 1992 dans The Lancet, la grande revue scientifique, va plus loin. Cette publication est signée du médecin-chercheur Serge Renaud, lui-même petit-fils d'un vigneron du Bordelais, signée également du cardiologue Michel de Lorgeril. Et ces deux auteurs suggèrent que la forte consommation de graisse animale et la faible mortalité dans la coronaropathie étaient attribuables à une forte consommation de vin. Le vin qui contient des antioxydants comme les polyphénols et qui aurait donc des vertus protectrices pour le cœur. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de réelles preuves scientifiques et de robustes études scientifiques ont battu en brèche cette idée, hein, Mickaël Nassila.
Aucune. Et d'ailleurs, si c'était le cas, on aurait le vin rouge qui serait considéré comme un médicament. Donc en fait, les méta-analyses ont montré que les études, il y avait beaucoup de biais méthodologiques, des gros biais méthodologiques et des facteurs de confusion importants. Et puis surtout, maintenant, on a une nouvelle méthodologie scientifique qui s'appelle l'épidémiologie génétique. J'ai même pas besoin de vous demander combien vous consommez. Je vais regarder vos gènes et d'après vos mutations génétiques et des enzymes qui dégradent l'alcool, je vais savoir combien vous consommez d'alcool. Et quand on utilise ces méthodologies et on utilise la vieille méthodologie observationnelle qu'on a toujours utilisée et on compare sur la même population, on est capable de montrer artificiellement ces effets bénéfiques avec la vieille méthodologie. Avec la nouvelle méthodologie, on ne voit rien, c'est linéaire. Dès que vous consommez d'alcool, vous avez une augmentation des risques.
En 2016, pour enfoncer le clou et mettre fin à ce French paradoxe, ce pseudo-French paradoxe, Tim Stockwell et son équipe de chercheurs ont clairement montré qu'il n'y avait pas d'effet protecteur d'une consommation modérée d'alcool pour la santé, quel que soit l'alcool. Et en 2018, une étude sur 28 millions de personnes dans 195 pays porte le coup fatal au French paradoxe. Un seul verre par jour suffit à augmenter le risque sanitaire. Il n'y a pas d'effet protecteur à faible dose. Professeur Benyamina.
Ce que vous venez de montrer, Ali, c'est remarquable parce que vous voyez bien que la science avance avec des preuves irréfutables. En revanche, la filière et puis les Français n'ont pas accès à à cette évolution. Il reste dans l'esprit des Français que boire du vin, c'est très bien, c'est quand même mieux que de boire du whisky ou de boire peut-être des alcools forts, et que c'est pas plus mal, parce que c'est très souvent et très de manière permanente alimenté par le lobby de la filière.
Patrick nous demande d'ailleurs quelle différence entre les alcools forts et un verre de vin régulièrement.
Aucune. Alors je vais répondre là-dessus, aucune, simplement la robe, le goût, si vous voulez. En revanche, aucune, parce que c'est la teneur en alcool pur qui est à l'origine des problèmes et qui est à l'origine des méfaits. Prenez un verre de vin, comparé à une dose de whisky, une dose de pastis, y compris du cidre brut ou je ne sais, du champagne, c'est la même chose. Simplement, il faut connaître, là, il faut avoir l'équivalence, ce qu'on a dans les restaurants ou bien dans les brasseries.
Il faut arrêter le distinguo entre alcool fort et vin, professeur Nassila ?
Oui, alors, toxicité, c'est la même, comme l'a dit le professeur Manuel, c'est la même. Par contre, c'est le comportement. Effectivement, le vin, on va plutôt le boire
avec
de manière
tolérance.
Régulière et puis au milieu des repas. Donc, c'est plutôt un effet comportemental et voilà. Et les alcools forts ou la bière, ça peut être plus consommé de type binge. Donc là, on va voir beaucoup plus de mortalité, de pathologie. Mais
binge, rappelez ce que
c'est. Alors, le binge, c'est boire au moins 5-6 verres en une occasion, en 2 heures. Mais en fait, ça peut être. Maintenant, on parle de binge drinking de l'extrême et à haute intensité. Ça peut être 2-3 fois ça. Hein. Vous avez des jeunes notamment qui boivent beaucoup plus.
C'est même plus dangereux avec l'alcool, avec le vin, parce que le vin, il y a une vraie tolérance, on est capable de boire plusieurs verres pendant un repas. En revanche, un alcool fort, vous en prenez un au début et un à la fin, à l'apéro, comme disent, et au digestif, alors que pour le vin, il y a une vraie tolérance.
Laurent Beg-Chankland, le vin, c'est une tradition culturelle profondément ancrée dans notre pays. C'est un symbole de convivialité, de plaisir, de raffinement. Nous vivons dans un pays où l'apéro est une religion sociale. Quand vous ne buvez pas, vous passez pour un bon ennemi, une personne ennuyeuse, voire plus chiante peut-être, Laurent Beg-Chankland. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile, dans beaucoup de milieux, de dire que l'on ne boit pas et donc de s'exposer au jugement social. Et il est vrai que la honte de ne pas boire chez certains, eh bien, est un frein à l'arrêt de l'alcool.
Oui, mais il y a un stéréotype, effectivement, du buveur qui serait jovial, qui serait voilà bon vivant. Je pense que c'est des idées qui sont évidemment totalement erronées, hein, mais qui associent les consommations à des comportements, je dirais, de sociabilité. Or, dans la pratique, finalement, si vous regardez des interactions, des échanges sociaux harmonieux, vous voyez que l'alcool, finalement, a un effet de rigidification des interactions et des pensées, c'est-à-dire que finalement, on est beaucoup moins connecté aux autres, même si on croit l'être plus. En fait, on est beaucoup moins. L'ajustement entre les personnes est perturbé parce que l'alcool, finalement, va diminuer les capacités de traitement de l'information, les capacités d'harmonisation, finalement, dans la communication. Et donc, je crois qu'il y a effectivement ce préjugé-là, que l'alcool rendrait finalement plus jovial, plus sympathique. Dans la pratique, il produit une forme d'illusion. Et ça, c'est évidemment favorisé par différents facteurs, incluant d'ailleurs le marketing, hein, qui va associer à l'alcool, je dirais la bonne humeur, la sociabilité, la beauté, l'attractivité, etc. etc.
Afaf Soumri m'écrit ce message. Il est vrai que c'est pénible de devoir se justifier pourquoi je ne bois pas d'alcool. Pour ma part, heureusement que je sais m'affirmer et faire fi du regard de l'autre. Je sais m'amuser, être bien dans une soirée sans boire d'alcool. Professeur Benyamina.
Oui, je suis d'accord avec elle, mais on doit reconnaître que la société commence à évoluer. Ah oui. De la même manière qu'à un moment donné, lorsque vous disiez je ne mange pas de viande, on vous regardait avec des gros yeux en pensant que vous alliez mourir dans un mois parce que vous étiez dénutri, on peut maintenant dire je ne bois pas d'alcool. La dénormalisation est en cours et je peux vous assurer que le défi de janvier dont on a parlé en début d'émission y est pour beaucoup. C'est de moins en moins difficile pour les personnes d'affirmer le fait qu'elles ne boivent pas sans avoir une position spirituelle ou qu'elles soient malades ou qu'elles aient été malades.
Professeur Nassila, j'ai l'impression qu'il y a une bascule cette année.
Ah, il y a une bascule.
Comment vous l'expliquez ?
Très net. C'est les campagnes, hein, les campagnes du défi de janvier qui s'accumulent, et puis cette communication, je pense que là, on a multiplié la communication, on informe les gens. D'ailleurs, quand vous faites des micro-trottoirs maintenant, vous voyez des jeunes qui disent « Ah oui, non mais je sais, l'alcool c'est un problème, j'ai réduit ». Voilà, avant on ne voyait pas vraiment ce type de réponse. Voilà. Et puis là, vous voyez, on vient de nous dire que moi je m'affirme, voilà, on n'a pas à culpabiliser, il faut, hein, la clé c'est de s'affirmer, dire tout de suite « Bah voilà, moi je ne bois pas, c'est ma semaine où je fais du sport, voilà, je fais attention à ma consommation d'alcool, parce que, et puis toi, tu devrais plutôt, et on renverse la situation, toi, tu devrais plutôt, toi, t'interroger aussi sur ta consommation d'alcool, par exemple.
Allez, il est temps de retrouver la chronique Quoi de neuf, docteur, du docteur Adrien Chaboch.
Ah ouais, ça me le fait, là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur?
Sur France Inter.
Docteur Chaboch.
Ali, c'est la grande question, vraiment, que tout le monde attend depuis très longtemps. Êtes-vous normal?
Écoutez, c'est à vous de le dire, hein, docteur.
Eh ben, c'est compliqué. Non, mais attendez, je voudrais pas que nos auditeurs s'inquiètent. Hein. Ça fait 7 ans, qu'on travaille ensemble avec Ali. Je rassure tout le monde, Ali Rebéi est super et normal. Sauf que ce que l'on nomme normal, ben c'est loin d'être évident. Qui décide de cette supposée normalité? La science, hein? Par exemple, celle d'hier, pour qui les femmes étaient hystériques en raison de la présence d'un utérus? Ou bien celle qui a fait condamner l'homosexualité comme un crime en France jusqu'en 82 et sur la liste des maladies mentales de l'OMS jusqu'en 90? Réfléchissons. L'autre jour, je rencontre René, un charmant jeune homme de 87 ans, en maison de retraite sans médecin traitant. Alors pour faire connaissance, je lui pose des questions que tout médecin doit poser, dont sa consommation d'alcool. Et il me dit « Ah moi, je bois jamais d'alcool, jamais. Que du vin, mais jamais d'alcool. » Alors, dans ces moments magnifiques hein, que la médecine quand même me fait vivre, devant le regard très sérieux de René, je ne peux contenir un large sourire et une journée un peu illuminée par sa spontanéité. Mais je me rappelle aussi cette carte postale du début du XXe siècle, où l'on voit un petit écolier se diriger vers l'école communale, portant sous le bras sa besace avec un pichet de vin. On pouvait lire au bas de la carte « Pour la concentration et la vitalité de votre enfant, n'oubliez pas son vin ». C'est vrai et c'est fou. Il faudra attendre 1956 pour que l'alcool soit interdit dans les cantines scolaires. Un autre exemple de tous les jours. Vous savez, Ali, que nous avons tous des variations d'humeur, plus ou moins grandes, intenses, rapides. Pour Cynthia, une patiente que je vois depuis 5 ans, ces variations sont très fréquentes, avec une alternance de phases d'exaltation dans une journée, suivie de mini-dépressions de quelques jours. Alors elle a tout eu comme jugement. T'es hystérique, bipolaire, t'as un trouble de l'attention, t'es hyperactive. Non, rien de tout ça. Elle a ce qu'on appelle un trouble cyclothymique, trouble qui ne l'empêche plus de vivre maintenant, sans aucun médicament, depuis qu'elle a appris à se connaître. Pour l'accompagner durant toutes ces années, il m'a fallu oublier beaucoup de ce que les manuels de médecine m'avaient appris. Nous en avons appris plus ensemble à force de l'écouter. Et puis, il y a cette thèse du docteur Le Guilouzi, publiée en 2017, qui a montré que l'accompagnement au changement de comportement d'un patient se fait par le renforcement de son estime. Lorsqu'un médecin valorise le patient dans sa globalité, son autonomie, son affirmation, tout ce qu'il fait, qu'il est un et pas un autre, alors, en l'accompagnant médicalement, on l'observe faire lui-même des changements que nous ne parvenions pas à faire. Et Cynthia, elle me dit « Je suis comme tout le monde, différente ». Ça nous interroge quand même sur la façon aussi dont les labos pharmaceutiques définissent les bornes du normal et du pathologique pour décider des indications des médicaments qu'ils commercialisent eux-mêmes. Alors, si les sociétés créent des normes et les pensent universelle, l'humilité de l'histoire nous rappelle que ce qui est constant, c'est qu'elle change. Mais il y a une normalité qui est irréfutable. C'est celle dont la limite est définie par la souffrance. Et ça, personne ne peut en décider à la place d'un individu. Ce qui serait normal, ce serait que les médecins se demandent toujours cette question avant que le patient ne soit malade. Et pour notre bon René, dans sa maison de retraite, je lui ai quand même prescrit un verre de vin 5 soirs par semaine, sur ordonnance, parce que la modération dans notre société, on ne la connaît pas assez.
Tiens, sur la modération justement, professeur Nassila, est-ce que vous serez d'accord avec le docteur Adrien Chaboch?
Modération, non, faut arrêter. Voilà, pareil, on ne sait pas ce que c'est la modération, donc.
Si c'est un concept marketing.
Mais du point de vue médical, faut limiter quand même. Mais après, je comprends. Hein. Certaines comme tolérance, pas laxisme, mais une certaine tolérance quand même.
France Inter.
Je dis pas qu'il a pas toujours été fou.
Grand bien vous fasse.
Mais avant, il communiquait. C'est depuis qu'il a arrêté de boire qu'il a muté son nom. Il n'est plus rien.
Ali Rebéi.
Et ce matin, qu'est-ce qui nous empêche de boire de l'alcool? En compagnie des professeurs Michael Nassila, Amine Benyamina, avec le professeur en psychologie sociale Laurent Begg-Shankland. Écoutons les héroïnes de la série télé américaine Sex and the City qui commande beaucoup, beaucoup, beaucoup de Cosmopolitan, un célèbre cocktail.
Can I get you something to drink?
Cosmopolitan? Cosmopolitan. Cosmopolitan. Cosmopolitan, right? Another cosmopolitan.
I'd like a cheeseburger, large fries, and a cosmopolitan.
Please, for all of us.
Alors, Laurent Begg-Shankland, vous avez copublié un article dans The Conversation, excellent site d'information. Quand les séries télé nous incitent à boire, dans les séries télé, l'alcool coule à flot. Les analyses de contenu montrent que près de 90% des films et des séries mettent en scène des événements impliquant de l'alcool. Et c'est souvent flatteur. 43% des personnages qui en consomment y sont dépeints comme étant physiquement et socialement attractifs.
Oui, alors c'est intéressant de voir qu'effectivement l'alcool est dépeint comme quelque chose qui va, un élixir qui métamorphose, qui transforme, à tel point que les personnes qui ont consommé de l'alcool finissent par se sentir différentes. Alors j'ai fait une étude avec des collaborateurs, par exemple dans des bars et des cafés il y a quelques années. Nous allions avec un éthylomètre mesurer l'éthylométrie de consommateurs et leur demandait également de se décrire au moment où ils remplissaient le questionnaire. Et il y avait une corrélation, c'est-à-dire que les personnes qui avaient une éthylométrie élevée se trouvait plus séduisante. Alors c'est un peu mystérieux, pourquoi, pour quelles raisons? Et donc dans un second temps, j'ai fait une étude de laboratoire où là j'ai amené des personnes à consommer un placebo d'alcool et à faire une prestation devant une caméra, puis ensuite à s'auto-évaluer. Et il est ressorti que les personnes qui croyaient avoir consommé de l'alcool se trouvaient également plus attirantes par rapport à celles qui pensaient avoir consommé simplement une boisson sans alcool. Donc il y a vraiment un effet, je dirais, lié à la croyance. Et cette croyance-là, eh bien, elle est en partie instillée par la manière dont sont dépeintes les personnes qui consomment dans les séries, dans les films. Effectivement, on a beaucoup de travaux qui ont été menés là-dessus et qui montrent que l'alcool, comme vous l'avez dit, est très présent, hein, sature finalement l'espace médiatique, avec chaque fois, évidemment, une mise en avant des bénéfices en termes de sociabilité, en termes d'interaction, et rarement, évidemment, de mise en avant des coûts, comme les coûts sanitaires ou les coûts interpersonnels. Donc il y a bien sûr une mise en scène très biaisée de l'alcool. Alors il y a eu une étude qui a été faite également dans une revue médicale, le British Medical Journal, qui a consisté à coder la façon dont James Bond est présenté dans les différents épisodes de ses aventures. Et on voit qu'évidemment, lorsqu'on comptabilise le nombre de consommations de ce héros, ce héros pour certains en tout cas, eh bien on voit qu'il a des consommations astronomiques, à tel point que certains l'ont surnommé l'homme au foie d'or.
Alors Anne-Marie nous écrit, dans de nombreuses séries, on voit les personnages, femmes et hommes, rentrant à leur domicile, sortant une bouteille de vin à n'importe quelle heure de la journée. Et c'est vrai que j'ai vu récemment deux séries, Good Girl et Dead to Me, deux séries qui mettent en scène des femmes de la quarantaine, issues des banlieues américaines. Et à chaque fois qu'elles connaissent un stress, une émotion, un choc émotionnel, positif ou négatif, elles boivent un verre de vin, un verre de bourbon, je ne sais quoi. Et dans chaque épisode en moyenne, dans Dead to Me par exemple, ou dans Good Girl, j'ai pas fait de comptabilité exacte, mais à 3-4 reprises, on boit de l'alcool pour éponger un stress, une émotion forte. C'est des choses que vous avez constatées, vous, Laurent Begg-Shankland, dans beaucoup de séries télé populaires.
Bien sûr, le fameux I need a drink. Bien sûr, hein,
c'est quelque
chose
verre.
qui est très présent. Ouais. Donc, on a évidemment une présence marquée de ces réflexes-là de consommation en situation de stress. Et ce qu'il faut dire par ailleurs, c'est que le fait de voir finalement des personnes consommer n'est pas indifférent pour le spectateur qui finalement voit la possibilité de le faire, qui est plus accessible. Hein. On a également des recherches qui ont été faites à Grenoble sur l'effet de simples scènes d'alcoolisation sur l'envie de boire de la part des personnes qui voient ces scènes. Et clairement, le fait d'être exposé de manière répétée à des scènes de consommation n'est pas sans effet sur finalement une envie plus ou moins explicite de prendre un verre soi-même.
Une question très intéressante de Simon qui nous écrit. Peut-on quand même dire qu'on boit parfois un verre parce que le vin ou d'autres alcools ont un bon goût? On ne boit pas que pour avoir une dose d'alcool, mais bien parce qu'un grand vin, un bon vieil alcool est un vrai délice, professeur Beniamina.
Oui, absolument. De toutes les façons, quand on boit pour avoir ressentir les effets, c'est qu'on a dépassé le cap que vous signalez, Ali. Évidemment, au départ...
C'est un plaisir.
C'est un plaisir. Et d'ailleurs, on le dit aussi, lorsqu'on n'a pas consommé du vin ou de l'alcool, on éduque le palais, c'est ce qu'on dit, et c'est la raison pour laquelle la filière et le lobby construisent finalement des stratégies pour pouvoir mettre sur le marché des goûts d'alcool pour les jeunes et les femmes, parce que ce sont les deux grandes cibles qui ne consomment pas de manière naturelle. On éduque le palais et ensuite on apprend à aimer et puis on rentre dans une espèce de mimétisme social. Absolument, on est tout à fait d'accord.
Professeur Mickaël Nassila, sur le plaisir de boire de l'alcool.
Alors c'est vrai que du point de vue organoleptique, il y a le goût, il y a l'odeur, c'est autant de signaux qu'on associe et d'où la puissance aussi de l'alcool. C'est vrai que c'est du plaisir. Le problème, tant que ça reste du plaisir, il n'y a pas de problème, j'irai. Mais le problème, c'est que notre circuit cérébral du plaisir, il s'adapte de manière chronique et il va plutôt s'adapter à la baisse, il va s'écrouler. Et il faudra consommer de plus en plus. Bah, c'est-à-dire que vous le stimulez, et lui il s'adapte, il va contrer les effets de l'alcool et il va avoir... une hypoactivité. La seule le seul moyen de le contrer, c'est de boire toujours plus. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il s'est écroulé, on passe dans la phase obscure, les émotions négatives, la dysphorie, le mal-être. Et donc, on n'est pas bien et on boit cette fois-ci pour se soulager. Voilà la bascule qui est importante dans le plaisir au déplaisir.
Un contre-exemple, les patients, ceux que je reçois, me disent, quand ils sont malades, dépendants, qu'ils sont en soins chez moi, chez nous, ils disent, je n'aime pas le goût de l'alcool, mais je peux pas m'en passer, j'ai besoin de l'effet. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on dit. En vérité, c'est vrai.
Ce qui peut empêcher d'arrêter de boire de l'alcool, c'est la culpabilité de faire du mal à un secteur économique important dans notre pays. Le secteur du vin, c'est un secteur économique essentiel en France. 600 000 emplois directs et indirects. En 2022, les exportations de vin représentaient environ 17 milliards d'euros. Les lobbies viticoles usent et abusent de cet argument économique pour empêcher un vrai plan anti-alcool dans notre pays. Ne pas boire d'alcool dans des région viticole peut être très très mal vue. Et on peut le comprendre de leur point de vue.
Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus dans la Fédération française d'addictologie pour dire qu'on peut avoir une attitude de santé publique sans être anti-alcool, puisque vous l'avez dit, c'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas des plans anti-alcool, ce sont des plans de santé publique. Il y a de la place entre la santé publique, qui permet aux Français d'avoir une information validée, loyale et objective, et permettre à la filière de construire leur stratégie marketing. Ce qui est insupportable, c'est lorsque la filière viticole se mêle de prévention, de santé, et distille des informations pseudo-scientifiques, ce qui est absolument insupportable.
Professeur Nassila.
Oui, non, mais la filière, il va falloir qu'elle s'y fasse. Il y a une tendance mondiale générale à la diminution de la consommation d'alcool. Donc charge à eux, le Français boit moins. Il boit toujours moins, et il boit mieux, moins souvent, etc. Et donc, il va falloir proposer aussi une offre. On a parlé du goût tout à l'heure. Je suis ravi de voir que les boissons désalcoolisées sont de mieux en mieux. Elles sont meilleures, elles sont plébiscitées. Et donc, il va falloir développer d'autres marchés. Il va falloir s'y faire.
Alors, c'est le Dry January. Quels sont vos conseils pour celles et ceux qui le suivent en ce moment et pour tenir jusqu'au bout du mois et peut-être aller au-delà, professeur Nassila? Quels sont vos conseils de base?
Il faut le faire à plusieurs, c'est plus sympa, entre amis ou entre collègues de travail. Il faut s'inscrire en ligne sur le site Défi de Janvier, on peut s'inscrire pour recevoir des newsletters, des conseils, des choses comme ça.
Défi de Janvier,
défi-de-janvier.fr, c'est le site porté par plein de partenaires dans la Société Française d'Alcoolologie. Et puis le conseil majeur que je donne aussi, c'est de télécharger l'application My Défi, où là c'est une vraie application de coaching qui vous dit où vous en êtes et qui va vous aider à réussir le défi et qui peut vous aider toute l'année aussi à maintenir l'abstinence. Si vous voulez rester abstinent ou réduire votre consommation d'alcool, vous fixez vous-même vos objectifs et vous avez des conseils personnalisés.
Le site, c'est le défi de janvier et l'appli, c'est My Défi. Vos conseils, professeur?
Alors, moi, les conseils, Benyamina, évidemment, outre le fait de ce que vient de dire Mickaël, puisque on l'a porté ensemble et c'est un collectif extrêmement important, c'est se rendre compte de semaine en semaine C'est un grand moteur qu'on a, on dort mieux, on a perdu du poids, et c'est extrêmement important.
Il y a une espèce de jolie peau.
Absolument, il y a une jolie peau, une automotivation qui s'opère. C'est un peu comme ceux qui font du sport, qui commencent à prendre un tout petit peu de muscle, qui sont un peu mieux, ceux qui courent et qui respirent mieux. On le voit très vite.
Et en parler avec son médecin généraliste, Adrien Chaboch, hein. C'est important.
Et toujours, c'est quand même là où il y a un site de dépistage, de prévention, de messages d'information et de travail avec le patient au long cours. Parce que, comme on l'a dit, voilà, faire un changement de mode de vie, c'est pas du jour au lendemain, c'est l'accompagnement qui le fait.
Laurent Beg-Chankland.
Oui, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est le but. Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un but valorisé, une façon de se développer, de progresser? Et je pense qu'il y a un point intéressant. Et puis aussi, pourquoi pas la substitution? C'est-à-dire, par quoi on remplace? Quels sont les autres plaisirs liquides que l'on va découvrir? Il y en a beaucoup à découvrir de plus en plus, et ça vaut le coup, effectivement, de s'ouvrir à cela.
Et vous l'avez dit, professeur Nassila, il y a beaucoup de boissons sans alcool qui gagnent en qualité, hein.
Oui, tout à fait. L'offre se développe. Juste un petit point de vigilance quand même sur les boissons désalcoolisées. Quand on a un problème avec sa consommation d'alcool, l'idée avec ce défi de janvier, c'est de se déshabituer un petit peu des consommations voilà, qui font trop penser à l'alcool. Sinon, c'est ce qu'on appelle vraiment les biais cognitifs. Vous maintenez une consommation, donc attention. Et un dernier petit conseil, moi, pour les professionnels de santé, parce qu'on fait aussi des choses pour les professionnels de santé, c'est la clé. Il y a un petit site qui vient d'être monté qui s'appelle Éthyloclic, où là, le généraliste a toutes les infos, comment repérer, comment agir, comment sevrer, comment prendre en charge. Voilà, on pense aussi aux professionnels.
Pour les professionnels de santé, Éthyloclic. Merci à tous. Merci professeur Michael Nassila. Je conseille vraiment, j'arrête de boire sans devenir chiant. Le guide pour changer sa relation à l'alcool et préserver sa santé, c'est publié chez Solar. Merci beaucoup professeur Amine Benyamina. Et merci beaucoup Laurent Beg-Chankland.
Grand bien vous fasse. Un podcast France Inter.